wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, le spectacle vivant. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Yanis Djouda, des réalisations Thomas Beau. Autour de moi, Fabienne Pascaud, Marie-Josée Sirach et Philippe Chevillier. Pour parler ensemble de Faust d'après Goethe, adapté et mis en scène par Valentine Losso et Raphaël Navarro à la Comédie Française dans sa salle du Vieux Colombier. Comme il vous plaira, de Shakespeare, mise en scène Christophe Roque, en ce moment à l'affiche du Théâtre 71, scène nationale de Malakoff, puis en tournée. Puis Club 27, écrit et mise en scène par Guillaume Barbeau, en ce moment à l'affiche du Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Aïssa Tundoy est devant ses écrans pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez formuler sur les spectacles dont nous parlons ce soir, si vous avez des questions à poser également à leur sujet, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour l'exposition Hugo Pratt, Ligne d'horizon, à découvrir au Musée des Confluences à Lyon. La magie nouvelle a peut-être fait apparaître un public nouveau. Cette production de Faust affiche complet pour les premières semaines d'exploitation. Il faut réserver longtemps à l'avance. De quoi s'agit-il ? Eh bien, Eric Ruff, administrateur de la Comédie Française, a confié les clés du Vieux Colombier à Valentine Losso et Raphaël Navarro, donc, qui font entrer disparition, lévitation, hologramme, au registre, déjà de très haute volée, des comédiens du français. Ils signent, selon le programme de salle, adaptation, magie et mise en scène de ce Faust de Goethe dans la traduction de Gérard de Nerval.
Je maudis tout ce que l'âme environne d'attrait et de prestige. Tout ce qu'en ces tristes demeures elle voit d'éclat et de mensonge. Ah, maudite soit l'espérance, maudite la foi, et maudite avant tout la patience.
Ne cesse donc de jouer de cette tristesse qui comme un vautour dévore ta vie. Unis-toi à moi, pour guider tes pas. Je m'accommoderai volontiers à t'appartenir sur le champ. Eh, je me fais ton compagnon. Ou si cela t'arrange mieux, ton serviteur. Ton esclave. Et quelle obligation devrais-je remplir en retour?
Oh, tu auras le temps de t'occuper de cela.
Ah, le diable est un égoïste et ne fait point pour l'amour de Dieu ce qui est utile à autrui. Exprime clairement ta condition.
Je veux ici m'attacher à ton service, obéir sans fin ni cesse à ton moindre signe. Mais lorsque nous nous reverrons là-dessous, tu devras me servir à ton tour et ne servir que moi seul.
Le dessous ne m'inquiète guère.
Peu m'importe que ces sphères aient un dessus et un dessous.
Mais dans un tel état d'esprit, tu peux t'aventurer. Accepte ma proposition. Engage-toi.
Tu verras tout ce que mon art peut procurer de plaisir.
Plaisir pour vous, Fabienne Pascaud ?
Pas du tout.
Bon, au suivant. Non, on va développer un peu dans un premier temps.
Oui, on va quand même développer un petit peu. On a pu se rendre compte, là, du jeu vieillot, démonstratif, de Laurent Natrella dans Faust, qui compose un Faust comme on pouvait sans doute le voir au début du siècle dernier, et le jeu de Méphisto, incarné par Christian Eck, beaucoup plus drôle, beaucoup plus... Donc, pendant toute la représentation, on va se sentir proche de Méphisto, et très loin de ce Faust bêta, conventionnel et mollasson. Alors, bon, c'est sans doute une déformation de ce qu'a voulu Goethe, hein, mais ça, peu importe. puisque c'est l'œuvre maîtresse de Goethe jusqu'à sa mort, il y travaillait encore, hein, il y a eu quantité de Faust, la pièce jouée, il y a eu le Faust 1, le Faust 2, le Ur-Faust, la pièce, je crois qu'elle elle dure plus de 24 heures, on a eu l'occasion de la voir mise en scène par des metteurs en scène allemands, et le spectacle durait plus de 24 heures dans son intégralité. Là, ça dure 3 heures, mais c'est beaucoup moins long apparemment, mais on s'ennuie mortellement, parce que je pense que la magie qu'ils ont voulu donner, que les deux metteurs en scène, qui sont les créateurs de ce qu'on appelle la nouvelle magie... La magie nouvelle, oui, Valentine Losso et Raphaël Navarro, ont été très préoccupés par les effets qu'ils ont voulu donner à la pièce, au drame de Faust, et du coup, ils sont passés à côté du texte. Alors, sans doute pour que les effets soient plus visibles, Eric Ruff, qu'on a connu mieux inspiré, a signé un décor sombre, noir, illustratif encore des vieux cabinets de magie comme on pouvait les imaginer sans doute à l'époque romantique où a été écrite la pièce. Mais sans oublier que je trouve très verbeuse, très plate et ennuyeuse la traduction du Faust de Goethe par Gérard de Nerval, hein, c'est pas sa meilleure œuvre. Le tout donne un spectacle laborieux, assez platement interprété, sauf Christian Eck qui est magistral dans Mephisto comme d'habitude, et les effets magiques pour moi ne suffisent pas à redonner son génie à cette œuvre qui brasse quand même l'histoire de l'homme, l'histoire de l'humanité, de la rédemption, du pardon, avec toute l'histoire de Marguerite, pécheresse mais sauvée à la fin. Donc c'est infiniment plus profond et plus magnifique et plus métaphysique que cette plate représentation.
Bon, qui est dit. Marie-Josée Sirache, sur ce Faust à la Comédie Française.
Je partage l'avis de ma camarade.
Chic.
C'est-à-dire que c'est une farce qui tombe à plat très vite. Toute la part de mystère contenue dans Faust, les interrogations sur l'homme, son rapport à l'humanité, au cosmos, toutes ces questions métaphysiques qui peuvent traverser l'œuvre disparaissent ici comme par magie, hélas. Effectivement, tous les effets... l'illusion, on est un peu bluffé. C'est vrai qu'il y a des très très jolis moments avec des effets d'optique, de lumière. On les voit assis comme s'ils tenaient en l'air. Les acteurs, tout ça est très beau, très bien rodé, mais c'est d'une lourdeur. Les décors d'Eric Ruff, alors surtout la première partie. Tout est poussiéreux, c'est surchargé, des bibelots partout, même les tableaux accrochés au rideau. on peut passer des heures à observer. En même temps, c'est magnifique parce que c'est comme on pouvait... Ça ressemble aux images du 19e siècle.
Gustave Doré, quoi.
Voilà, c'est Gustave
Doré.
Oui,
mais c'est l'intérieur du vieux docteur Faust, enfin du vieux garçon,
oui,
en tout cas.
La deuxième partie, le décor... Enfin, je trouve que la scénographie permet justement à la magie peut-être de peut jouer son rôle et d'être plus libre vis-à-vis du texte parce que...
La magie est meilleure quand il y a moins de décors.
Bah oui,
c'est le cas au tout début, c'est le cas ensuite.
Et à la fin, oui. Effectivement, en deuxième partie. Parce que là... Mais c'est trop, effectivement. Il y a toute une série avec les hologrammes. Au bout d'un moment, on a compris que toute la troupe défilait. Et puis, oui, à part Christian Eck, bon, tout ça est... c'est bien parce que ce sont des grands acteurs, donc c'est toujours bien. Les gens sont ravis, rient beaucoup, mais
quand même Faust est en dessous.
Moi, je me suis ennuyée quand même beaucoup.
Bon, on va continuer le tour de table avec Philippe Chevillé.
Alors moi, je trouve que c'est assez passionnant de voir à quel point c'est raté.
Bon, d'accord.
Parce que...
c'est bien commencé, ça.
Le point de départ, c'était de se dire, c'est l'idée d'Éric Ruff qui a fait beaucoup d'expériences, il l'a fait avec les marionnettes, ça avait très bien marché, c'est de se dire, au fond, le théâtre, c'est de l'illusion, c'est de la magie, donc on va demander à des magiciens, surtout sur un texte qui le permet, parce qu'un texte fantastique, onirique, et métaphysique, on va mettre de la magie. Simplement, la magie tue la magie, ou la magie tue le théâtre tue la magie, on ne sait pas très bien, mais c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Je pense que les tours qu'on voit, alors il y en a qui sont, comme disait Marie-Josée, il y en a qui sont pas mal, d'autres qui sont moins bons, c'est-à-dire que les hologrammes, moi je les trouve mieux chez Disney personnellement.
Moi j'aimerais bien voir l'aquarium avec la baleine, mais bon,
oui. C'est... Les petits diables rouges, ils sont très bien, oui. On a l'impression que c'est, en fait, ces effets... suivent assez platement l'histoire de Faust. Et en plus, avec, dès la première scène, on sent que le rythme n'est pas là. C'est-à-dire que pour nous montrer que Christian Eck arrive à bondir dans tous les sens comme s'il volait, il y a deux ou trois mouvements de trop qui font qu'on se dit, ça y est, ça va être long. Ça va être long, et c'est long. Alors, il y a une espèce de prudence, je pense, de se dire, bon, on s'attaque à Faust, donc on va rester au 19e, on va prendre Nerval, et on va travailler dessus comme ça. Mais du coup, on a l'impression qu'il y a que les effets qui sont le moteur de cette... on perd tout le propos métaphysique. La traduction de Nerval, effectivement, moi, je la trouve... Surtout, c'est assez sophistiqué, vieillotte, et du coup, on a du mal à suivre le texte. Et les comédiens sont tout occupés à faire leur tour quand ils en ont, notamment, bon, même Christian Eck, il a beaucoup de choses à faire. Alors, Christian Eck s'en sort parce que c'est un Mephisto, c'est un rôle fait pour lui. Non, j'ai trouvé qu'Anna Servinka était pas mal dans le rôle de Marguerite, avec ce côté un peu, disons, de sainte un peu diabolique sur les bords. Mais pour le reste, on a l'impression, toutes les scènes, alors en plus, on attend la scène de la taverne, on attend la nuit de Valpurgis. Alors, je pense qu'ils ont essayé aussi de faire un clin d'œil au théâtre. On a l'impression que la magie viendrait des comédiens, puisqu'il y a un faux Eric Ruff qui surgit à un moment donné. Ensuite, on voit la nuit de Valpurgis, ce sont des comédiens du français déguisés, qui sont filmés en vidéo, et il y a un dialogue avec les comédiens sur scène. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, tout ça, et on se perd et on cherche, si on n'a pas la métaphysique, on aimerait bien au moins avoir l'enchantement, mais on ne l'a pas, donc on perd sur tous les tableaux, et donc on s'est ennuyé, et c'est assez fascinant de se dire finalement, des magiciens qui sont visiblement doués, et tout ça, n'arrivent pas à se saisir d'un texte qui est trop fort pour supporter la magie.
Non, c'est un métier différent en même temps, mais c'est vrai que l'apparition d'Éric Ruff,
oui, j'avais pas drôle, en parler.
Moi, c'était le meilleur moment du spectacle. Encore, peut-être faut-il connaître un peu Éric Ruff pour vraiment complètement le goûter, parce que c'est effectivement Benjamin Laverne, mais il limite vraiment à la perfection.
C'est, troublant,
c'est saisissant.
Bon, le masque
est très bien fait, mais vraiment, on a l'impression d'entendre Éric Ruff parler. Non, mais ça fait rire quand même ceux qui le connaissent, qui est un peu gênant. Mais nous, ça nous a fait rire en tout cas. Mais c'est vrai que, alors moi j'aime beaucoup le Faust de Goethe, j'aime les comédiens et les comédiennes du français, j'aime la magie nouvelle, j'ai déjà vu des spectacles des metteurs en scène. Mais pourtant, je crois que c'est le cocktail, il y a peut-être trop d'ingrédients, mais en tout cas ça ne prend pas vraiment. Moi, ce qui m'a le plus surpris en effet, et encore que je l'ai vu pas mal de temps après la première, donc ils avaient quand même eu le temps de se roder, c'est que j'avais l'impression de voir du théâtre privé qui est mis du théâtre public, dans un code de jeu, donc un peu vieux, un peu effectivement cherchant des effets, mais vraiment pas d'une très grande finesse, et c'est vrai que je trouve qu'on perd complètement la langue, même si la traduction de Nerval peut poser problème. Bon, c'est quand même pas non plus... je pense qu'avec cette même traduction, on peut entendre des subtilités qui, ici, alors là, les subtilités sont mises au rang, car Fabienne Pascaud.
Mais oui, mais même la scène de viol de Marguerite n'est même pas rendue comme un viol là-dedans. C'est, je sais pas, il y a même des contresens, moi, je trouve, par rapport à l'œuvre de Faust, dont on perd, encore une fois... toute la dimension. Alors certes, au début, ça commence très bien par la rencontre de Dieu et de Méphistophélès qui parie sur qui gagnera l'âme de Faust. Donc on se dit, ça peut peut-être marcher.
Oui.
Et puis on se perd. Alors c'est d'autant plus drôle que Valentine Losseau, elle a très bien réussi la mise en scène du domino noir à l'Opéra Comique. Elle l'a signé avec Christian Eck, non?
C'est la femme de Christian Eck, Valérie Lessor, qui a co-signé le domino noir.
Je me suis trompée, je croyais que c'était la même.
Non.
Voilà. Et moi, je trouve ça manque de tout.
Bon, Aïssa Tundoy, je vous empêche pas de boire un peu d'eau dans ce studio surchauffé, mais quelques commentaires peut-être à faire entendre.
Oui, il y a Sylvie Collin, moqueuse, qui dit que la comédie française aurait dû faire appel à David Copperfield. Sinon.
Tant qu'à faire.
Cédric Peña a été modérément convaincu par ce Faust. Pour lui, Mephisto est bien dans son rôle, mais Faust, Laurent Natrella, passe un peu trop vite de la vertu au vice pour être parfaitement crédible. Il trouve néanmoins que la scénographie est ingénieuse et que les effets spéciaux sont beaux, sans paraître artificiels. Matti Angelini, pardon, a quant à elle été déçue du si attendu fausse de la comédie française. Je recommence depuis le début.
Allez, elle avait on remet le générique début. Alors, la dispute.
Elle avait en tête le magique 20 milieux sous les mers, mis en scène par Christian Eck et Valérie Lézor l'année dernière. Et là, sur Fausse, elle dit sentir une grande ambition, mais les complexités techniques semblent jouer à rebours. Elle s'est sentie loin du jeu des comédiens et finalement de l'histoire.
Oui, mais il aurait peut-être effectivement fallu la confier à Valérie Lessor et Christian Eck, cette mise en scène, aidée peut-être par Raphaël Navarro et Valentine Losso qui auraient apporté leur savoir-faire magique. Bon, mais ils en font beaucoup, Christian Eck et Valérie Lessor. Enfin, ils commencent dans la mise en scène vraiment tous les deux. Ce sont leurs premiers spectacles que l'on voit, mais bon, peut-être qu'il faudra le remonter ainsi. Philippe Chevillier.
Oui, moi je crois que je voudrais pas pour le coup accabler les comédiens français dans la mesure où ils sont, je le trouve quand même plutôt bons dans l'ensemble, simplement. Alors, ils sont pas dirigés.
Dans cette production là.
Non, même. Mais je les trouve.
Ça faisait des années que je ne les avais pas vus à ce mauvais niveau-là.
Ils font le minimum et ils sont dirigés de façon effectivement vieillotte, ça c'est sûr. Et par ailleurs, c'est vrai que l'idée de faire ce décor, en fait, qui serait peut-être le cabinet de Faust qui en fait évoluerait et que tout serait passé dans sa tête, bah, c'est une idée qui marche pas très bien parce que du coup, c'est vrai qu'encore une fois, la taverne, elle devrait être effrayante et la nuit de la Purgiste devrait être beaucoup plus onirique. Enfin, bref, moi, ce qui me fascine quand même, c'est qu'on perd de l'onirisme et du fantastique de cette œuvre qui n'en manque pas, quoi. C'est assez incroyable.
Alors que ça devrait être le contraire avec les magiciens.
Oui, mais bonne réaction du public, en tout cas. La salle adhère, et quand je dis que c'est complet sur plusieurs semaines. Je me suis demandé si c'était effectivement
une addition. C'est toujours complet, la comédie française.
Là, quand même, sur le Faust de Goethe, je me disais que c'est quand même, c'est pas une œuvre la plus facile, la plus connue. Il me semblait que ce serait. Enfin, moi, j'étais assez surpris de voir cet engouement.
Ça s'adresse à un public, c'est à partir de 12 ans. Je pense que les plus jeunes peuvent marcher dans cette histoire-là. Nous sommes exigeants.
Oui, c'est vrai.
Moi, j'entendais des jeunes gens à côté de moi rire. Il y avait des lycéens ou des collégiens, je ne sais plus trop. Ils sont restés. Enfin, ils étaient captivés quand même parce qu'ils voyaient, parce qu'ils étaient. Voilà, c'était en direct, les tours de magie. C'est vrai que la magie, ça plaît toujours. Il y a quelque chose. Mais effectivement, ça reste trop illustratif et les comédiens ont beau avoir passé un pacte du secret. Avec les deux metteurs en scène, leur Faust est sans la poussière quand même. Ouais. C'est triste. Enfin, c'est regrettable parce que il y avait tous les ingrédients pour faire quelque chose de magique et.
Oui, parce que les lévitations pour rester là-dessus, c'est stupéfiant.
C'est très beau.
Ouais. Hein, c'est stupéfiant. Parce que là, on ne comprend pas. Comment c'est possible là.
Et là, c'est au début, donc on est content.
Ah, oui, bien non, il y a encore un petit peu d'autres dans certaines scènes. Bon, ça marche quand même, mais peut-être il y a eu. Pardon ? Vous aimeriez bien savoir,
Marie-Josée ? J'adorerais savoir. Ouais. Et en même temps.
On adore ne pas savoir. Ne pas comprendre. Et alors, on est quand même émerveillé par instant, mais cet instant ne dure pas toute la représentation pour nous. Bon, en même temps, c'est complet. Si vous voulez réserver, prenez-vous-y à l'avance. Peut-être aussi. Que l'effet vacances scolaires qui arrive a peut-être aussi rempli encore plus les salles, puisque comme vous le disiez, Marie-Josée Sirach, ça peut s'adresser à de jeunes gens. Mais c'est vrai qu'on reparlera, nous, de Magie Nouvelle, puisqu'il y a un festival Magie Nouvelle au Théâtre du Rond-Point. Ce sera tout le mois de mai, du 2 au 31 mai. Et on retrouvera Valentine Losso, Raphaël Navarro, Yann Frisch aussi, Clément de Bayeul et Étienne Saglio. Et je crois qu'il est prévu, qu'on fasse une dispute sur au moins
prochainement, sur le spectacle de Yann Frisch.
Sur Yann Frisch, voilà. À suivre dans la dispute. Non, j'ai pas dit que c'était jusqu'au 6 mai, le Faust de Goethe pour l'instant au Théâtre du Vieux Colombier. Et puis dire qu'à suivre dans la dispute, nous allons parler de Comme il vous plaira et de Club 27.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Suite de cette dispute consacrée ce soir au spectacle vivant avec un autre classique, Shakespeare, et Comme il vous plaira, dans la traduction de Jean-Michel Desprats, mise en scène
par Christophe Rauch, le patron du Théâtre du Nord, un spectacle qui fait escale au Théâtre 71 de Malakoff et qui poursuivra ensuite sa tournée à Dunkerque, Melun-Sénart et Amiens, après sa création bien sûr à Lille. Cette comédie, écrite en 1599, est quand même assez difficilement résumable. On pourra quand même dire que Rosalinde et sa cousine Célia se cachent dans la forêt des Ardennes pour fuir la cour de son oncle. Elle espère aussi quand même trouver l'amour, mais que dans cette forêt, elle va faire de bien curieuses rencontres.
Come again, sweet love of now invite thy graces that refrain to do me do delight to see, to hear, to touch, to kiss,
to kiss,
to die
with thee again,
in sweetest sympathy.
Mais dites-moi, Audrey, suis-je toujours votre homme? Est-ce que ma configuration vous plaît?
Votre configuration? Dieu nous garde! Quelle configuration?
Je suis ici avec toi et tes boucs barbus, comme jadis le plus cabri des poètes, le chaste Ovide, au milieu de ces gos barbares.
Oh, savoir plus mal logé que Jupiter dans une chaumière.
Quand un homme voit ses vers incompris, que son esprit vif n'est pas relayé par ce précoce enfant, l'intelligence, ça voulait en plus raide qu'une addition trop salée dans un petit cabaret. En vérité, je voudrais que les dieux tussent fait poétique.
Je ne sais pas ce que c'est, poétique. Est-ce que c'est honnête à dire et à faire? Est-ce que c'est une chose vraie?
En vérité, non, car la poésie, la plus vraie et la plus mensongère, et les amoureux s'adonnent à la poésie, et on peut dire que ce qu'ils jurent en vers en tant qu'amoureux est pur mensonge.
Et vous voudriez alors que les dieux m'aient faite poétique?
En vérité, oui, car tu me jures que tu es vertueuse. Si tu étais poète, je pourrais espérer que c'est un mensonge.
Vous ne voudriez pas que je sois vertueuse?
En vérité, non, à moins que tu ne fusses laide. Car joindre la beauté et la vertu, c'est prendre du miel pour adoucir du sucre.
Voilà un fou réaliste.
Eh bien, je ne suis pas belle. Je prie donc les dieux qu'ils me fassent vertueuse.
Oh, vraiment ? Gaspille la vertu en la donnant à une garce laide. Ce serait servir un bon plat dans une assiette sale.
Je ne suis pas une garce, même si je suis laide. C'est l'œuvre des dieux et je les en remercie.
Bien, loué soient les dieux de ta laideur. Garce, ça peut venir après.
Comme il vous plaira, de William Shakespeare, mise en scène Christophe Rauch. Et alors, pour des raisons indépendantes de ma volonté, je n'ai pas pu voir ce spectacle et j'ai très envie de le voir et je crains que vous m'en donniez encore plus envie. Philippe Chevillier, j'ai pu lire déjà. Évidemment, dans les Échos, est-ce que j'ai lu Marie-Josée Cirage sur ce spectacle? Oui, vous l'avez vu à Lille.
Oui, je l'ai vu à Lille.
Je vous ai lu dans l'Humanité.
Absolument.
En dire grand bien, me semble-t-il.
Oui, j'ai beaucoup. Enfin, il y a une phrase qui me revient sans cesse à l'esprit, c'est plus une femme a de l'esprit, plus elle est rebelle, dit à un moment Rosalinde. Et c'est incroyable comme cette pièce de Shakespeare est un manifeste féministe. Les femmes y tiennent leur rôle, leur place, et tout autour gravitent ces hommes, alors qui sont la proie à des rivalités, à des querelles familiales. Les uns se cachent, et finalement tout le monde finit par se cacher dans les bois d'Ardennes de mémoire, et par se retrouver à tous ces seigneurs, à ces gens de bonne compagnie s'ajoute tout le petit peuple, une bergère, un gardien de chèvres, enfin les petits paysans qui sont là. Et il y a du travestissement, il y a de la folie, les gens se croisent. L'intrigue est impossible à résumer comme ça, même si vous avez à peu près donné
le point de départ.
Point de départ. Et il se trouve que tout le monde fonctionne un peu par pair ou avec son double en permanence, et c'est ça qui est intéressant. Et chez les filles, évidemment, il y a c'est Cécile Garcia-Fogel qui incarne Rosalinde, et Maud Le Crévelec, qui est sa cousine Célia. qui devraient être fâchés puisque leurs pères respectifs sont fâchés, mais leur amitié dépasse les convenances. Donc elles s'enfuient toutes deux dans la forêt et Rosaline est amoureuse d'Orlando. Lui communique par elle en lui glissant des mots d'amour dans les troncs d'arbres. Je trouve ça extrêmement joli comme façon de faire. C'est tout à fait charmant. Et Christophe Rock nous embarque dans cette histoire complètement folle et c'est dans des paysages, une nature luxuriante, exubérante, qui sert en même temps de refuge, qui est accueillante mais qui est mystérieuse, avec simplement des grands panneaux qui glissent, qui sont superbement bien peints, apparaissent sur le plateau des animaux, ceux que l'on peut croiser dans les forêts européennes, mais aussi un lion, enfin tout ça est totalement shakespearien, et c'est un très très joli moment de théâtre.
Philippe Chevillé, comme il vous plaira.
Et oui, je suis d'accord, là il y a de la magie. Il y a de la magie. Alors, c'est vrai que c'est une comédie hors sol quand même, parce que entre l'intrigue, qui est quand même assez compliquée, puis on se fiche un petit peu à la limite, le côté fantasque, le côté bavard aussi. Il y a beaucoup de. C'est pour ça qu'elle est pas si facile à monter que ça, cette pièce, parce qu'il y a des personnages qui parlent beaucoup, et parfois dans un humour élisabétain qu'on n'est pas forcé de comprendre si la traduction n'est pas bonne. Mais elle a deux avantages, effectivement, qui sont très forts. C'est l'histoire d'amour et qui est conduite par des femmes travestis et tout ça, ça c'est très très fort. Et puis moi, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est les deux personnages de bouffons qui se répondent, c'est-à-dire Jacques le mélancolique, qui est le contraire d'un bouffon, mais qui est quand même un fou d'une certaine façon, et puis Pierre de Touche, l'autre bouffon. Alors c'est eux qui parlent beaucoup, et c'est là qu'il faut très bien traduire. Donc Christophe Rock a pris la traduction de Jean-Michel Desprats, qui est vraiment, à mon avis, excellente, même s'il y a encore des passages qui sont parfois un petit peu fumeux. Et la mise en scène de Christophe Rock, bah d'abord, c'est d'avoir respecté le côté fantasque et le côté fantastique et le côté. Et c'est vrai que cette mise en scène, et vous parliez du décor, c'est amusant parce que en fait vous dites c'est luxuriant, mais on a l'impression qu'il n'y a presque rien sur le plateau au départ parce que c'est un sorte de miroir par terre. Et puis finalement ça se peuple effectivement de ces animaux empaillés. Il y a ces toiles qui. Et à la fin, j'ai commencé à me dire décor dépouillé, il n'est pas si dépouillé que ça, mais ça crée une vraie magie. Et ensuite, il y a la façon dont il arrive à donner un rythme et une forme à ce côté fantasque et à cette réflexion sur l'amour. Avec des comédiens qui sont tous assez doués, même très doués, et Cécile Garcia-Fogel dans ce rôle à la fois d'homme et de femme, où elle fait un peu ce phrasé qui est à la fois assez classique, en même temps un peu jeune, façon un peu hip-hop, un peu slam, et l'autre côté... De l'autre côté, sa cousine,
Maud Legrévelec, comédienne que j'adore, qu'on voit pas assez,
et qui est très très bien aussi. Les garçons sont pas mal. John Arnold, et puis oui, qui fait le Jacques le mélancolique, et Alain Tretout fait Pierre de Touche. Ils sont quand même assez forts. Et donc on arrive. Alors il y a, à mon avis, des toutes petites longueurs, peut-être dans la première partie, dû à la pièce qui est un peu compliquée. Et puis après, dans la deuxième partie, on est vraiment dans de l'absurde et du fantasque. Et moi, j'ai été emporté et charmé par cette mise en scène.
Voilà. Bon, 2/3. Fabienne Pascot.
Ah, ça va faire 3/3.
C'est vrai, hein. Vous me donnez vraiment très envie.
Voilà, j'ai beaucoup aimé le spectacle. Je crois que Christophe Rock l'avait déjà monté il y a 20 ans et qu'il avait dit qu'il l'avait très mal monté, donc il y revient. On sait que c'est aussi une pièce qui hantait Patrice Chéreau, parce que c'était le dernier spectacle qu'il devait monter à l'Odéon. Il avait commencé à le travailler et puis il n'a pas pu aboutir puisqu'il est mort avant. Donc c'est une pièce qui visiblement a des secrets. Parce que l'intrigue, c'est vrai qu'on y comprend pas grand chose toujours, et d'ailleurs en voulant écouter, moi je me disais mais mon Dieu, les spectateurs du 16e siècle, puisqu'elle a été écrite en 1599, il y a des rhétoriques aussi bien du point de vue du fou Jacques le mélancolique, ou les filles quand elles parlent entre elles, mon Dieu que c'est compliqué. Et puis finalement on dépasse tout ça, parce que Christophe Rock, il a réussi à faire un travail totalement musical et sonore, c'est-à-dire que parfois les comédiens parlent avec des micros, parfois ils n'ont pas de micro, parfois ils chantent. Il y a tout un travail. Parfois ils se mettent par terre pour parler. Et donc, on est envahi par le son, par la poésie, jusqu'à un certain surréalisme, comme vous le disiez. Et en plus, alors il y a, c'est là qu'il y a cette fameuse réplique, mais elle est dans plusieurs pièces de Shakespeare. Hein.
Le monde est un théâtre.
Le monde entier est un théâtre, et tous, hommes et femmes, n'y sont que des acteurs. Alors, c'est vrai qu'il excelle à montrer le théâtre de la vie du théâtre. On se retrouve, comme le disait Marie-Josée, dans un monde où chacun a son double. Hein. Les filles, elles ont leur double. Les amoureux, ils sont frères. Les filles sont cousines. Le fou et Jacques, le mélancolique. Enfin, tout le monde a son double. Donc, qu'est-ce qui est sûr? Qu'est-ce qui ne l'est pas? On flotte, puisque le vrai est contrebalancé par le faux, l'un par l'autre. Et c'est ça qui est finalement assez euphorisant dans un climat de bonheur et de gaieté. C'est une pièce joyeuse.
Et joyeuse, et puis en plus, j'ai lu dans votre article, Philippe, que la musique avait encore une fois sa place. Christophe Rau, il aime bien utiliser des musiques. Là, il s'est fait plaisir aussi. Ah, il fait plaisir aux spectateurs avec des choses peut-être inattendues.
Oui, puisqu'on a... Bon, au départ, c'est plutôt du Purcell. Et puis à un moment donné, on a vraiment une très belle interprétation du Because des Beatles, qui est vraiment reprise plusieurs fois. Et ça fait pas du tout, allez, on va vous mettre un peu de pop pour faire moderne, ça vient, ça glisse. Et il y a aussi, on a même de la disco. Puis, alors, d'ailleurs, c'est le personnage, le chanteur, que je crois qu'il a une veste à paillettes, donc évidemment, c'est tentant. Et moi, un spectacle où il y a des paillettes, je trouve qu'il ne peut pas être complètement mauvais. Donc, les robes sont très belles aussi. Non, mais pour en revenir à la musique, c'est vrai qu'il chante très bien. Et moi, j'ai été... Et c'est When the Rain Begins to Fall. Tout d'un coup, on se demande pourquoi. Et en fait, on se pose même pas
la question. Piazzadora et Jermaine Jackson, c'est ça?
Voilà.
Peut-être pas Jermaine, peut-être un autre.
Si, je crois que c'est Jermaine Jackson.
Et Piazzadora. Et donc,
ça pourrait venir comme un cheveu sur la soupe, mais on est dans un moment du spectacle, une espèce de transe un peu absurde comme ça, où tout d'un coup, tout passe et on a, dans cette forêt, tout peut arriver. Et arrive cette musique, qui est parfois une musique un peu féerique. Donc voilà, et la magie, là, il y a des fumigènes qui sortent d'un plat. C'est pas grand chose, hein, le sol miroir, et ben, ça fait de la magie, il n'y a pas besoin de mettre des hologrammes et ça marche.
La dimension féministe que pointait Marie-Louise Serrache, est-ce qu'elle est si évidente, Fabienne Pascaud, pour vous?
Je ne pense pas que Shakespeare soit réellement féministe, et en plus tous les rôles de femmes étaient joués par des hommes, mais dans son théâtre, hein, puisque les femmes n'avaient pas le droit de jouer. Donc je ne sais pas, mais en tout cas on pourrait dire que c'est une pièce transgenre, quoi, qu'il avait déjà tout compris, des problèmes, il y a des travestis, il y a des hommes deviennent des femmes, enfin se déguisent, les femmes deviennent des hommes, donc il est par-delà. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de sexualité diffuse qui est vraiment joyeuse.
Forêt de tous les fantasmes aussi.
Oui, puis alors les décors d'Aurélie Thomas, cette scénographie avec ces animaux empaillés qui arrivent sur des choses qu'on tire, comme chez Ariane Mouchkine, justement, parfois les tirettes. Christophe Rau, qui a été un formé chez Ariane Mouchkine, c'est vraiment avec pas grand-chose. Ces toiles peintes qui tombent, dans lesquelles il y a des trous entre les troncs d'arbres que figurent les toiles peintes, ça semble pas rien, et c'est d'une magie, d'une poésie formidable.
Non. Mais Marie-Josée Serrache.
Le dernier monologue est quand même surprenant par son actualité. C'est quand même un monologue extrêmement féministe. Je me suis dit, on l'a rajouté. Et j'ai trouvé que Shakespeare, pour le coup, apparaissait comme... vous avez raison, c'est vrai que c'était des hommes qui jouaient des rôles de femmes, mais cette façon de donner la part belle aux femmes, d'être les instigatrices de tout, et de détenir les clés systématiquement de l'intrigue, et d'être aux aguets, et de manipuler quelque part aussi les hommes.
Elle séduit en s'habillant en homme. Quand même, elle séduit, elle séduit l'homme qu'elle aime en se faisant passer pour un homme. Donc en faisant ressortir l'homosexualité.
Ça, c'est très intéressant.
On peut pas dire que ce soit un triomphe de la
femme.
Mais
le dernier monologue, quand même, c'est vraiment sur le rôle de la femme. Moi, je l'ai plus en tête comme ça, mais ça m'avait.
Vous l'avez pas appris par cœur.
Non, on est déçus.
Bah oui, on aurait aimé là que vous nous fassiez le monologue, Philippe Chevillé.
Non, et c'est vrai que même déguisée en homme, elle en profite pour édicter les règles de l'amour, mais vu par la femme, donc c'est vrai que... Mais c'est un jeu sur le genre, en effet. En plus, il y a ce personnage aussi de la bergère qui tombe amoureuse donc de Rosalind, donc croyant que c'est un homme. Et il y a une espèce de tour de passe-passe à la fin qui fait que finalement... elle reconnaît que non, elle aime quand même le berger dont elle se foutait complètement auparavant. Bon, bref, c'est trop compliqué à expliquer. Allez-y.
Mais c'est trop compliqué, ouais, c'est peut-être pour ça, et on l'a dit, hein, que c'est pas le Shakespeare le plus souvent monté.
Je me demande même si j'ai déjà vu, moi, monter. C'est pour ça que j'ai d'autant plus envie d'y aller. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vrai. Difficulté pour ce comme il vous plaira, mais ça fait quand même un certain nombre de spectacles que Christophe Roque enchaîne de grande qualité. Enfin, c'est quand même quelqu'un qui est peut-être pas si présent que ça dans le paysage, on va dire, au niveau national. Et pourtant, bon, il se trouve qu'on en rencontre parce qu'on a envie. Il nous donne envie de voir ses spectacles. C'est quand même quelqu'un qui compte maintenant, Christophe Roque,
Fabienne Pascaud. Oui, tout à fait. Bah, il sera à Avignon cet été.
Ah oui, c'est vrai. C'est l'école du Nord aussi, qui est l'école invitée cette année par le Festival d'Avignon.
Et il faut dire que c'est un formidable directeur d'acteur aussi. Mmh. Il a une finesse. Et quand on le rencontre, il a l'air si timide, si peu sûr de lui. Et il a, c'est peut-être ça, c'est peut-être cette facilité à douter qui lui donne autant de talent, je pense.
Philippe Chevillier.
Oui, il a une esthétique, mais qui s'est renouvelée parce que il y a quand même les décors peuvent être assez différents, même si on retrouve un peu les mêmes. Il y a toujours cette utilisation de la musique qui est très bien faite, parce que c'est pas toujours évident, c'est souvent plaqué dans les spectacles. Et donc je pense oui que c'est un metteur en scène important.
Marie-Josée Serrage, pour finir là-dessus.
Oui, c'est quelqu'un qui a une belle carrière derrière lui, quand même. L'an dernier, je me souviens de son Amphitryon avec les acteurs russes, qui étaient quand même extrêmement intéressants.
Il a monté le mariage de Figaro Divorce,
qui était très intéressant. Desbrest, quand il était au TGP, puis avant à Busson aussi, il avait quand même monté des pièces. Il va chercher des pièces, et du répertoire, mais aussi assez inattendues dans le répertoire. Pas les plus évidentes, pas celles
qui sont... Il n'est pas dans la facilité.
Oui, pas les plus montées.
Un aventurier. Bon, peut-être que d'ailleurs on redira un mot d'Avignon avant la fin de cette émission. Pour l'heure, on parlait de « Comme il vous plaira » de William Shakespeare dans la traduction de Jean-Michel Desbras, mise en scène par Christophe Roque jusqu'au 13 avril au Théâtre 71, scène nationale de Malakoff. Et puis d'autres dates à venir, 17 et 18 avril au Bateau-Feu à Dunkerque, du 3 au 5 mai au Théâtre Sénart, et puis du 15 au 16 mai à la Maison de la Culture d'Amiens. Voilà pour les prochaines dates.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Troisième sujet de cette dispute théâtre avec Club 27, dont l'écriture, la conception et la mise en scène sont signées Guillaume Barbeau, un spectacle qui est actuellement à l'affiche du TGP, justement, à Saint-Denis. Le Club 27, c'est le club des musiciens mythiques, morts à l'âge de 27 ans. On retrouvera donc sur scène Kurt Cobain, Brian Jones, Robert Johnson, Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Ce dernier étant d'ailleurs joué par Guillaume Barbeau lui-même, par ailleurs fils d'un célèbre critique rock, qui a notamment écrit dans Télérama, n'est-ce pas, Fabienne Pascaud. On notera peut-être qu'il manque Amy Winehouse dans la liste, mais le spectacle avait été écrit en 2012, quelques mois après la mort de la David britannique, mais pour autant, Amy est quand même présente. Le spectacle a évolué depuis sa création. Quand ils se rencontrent, les membres du Club 27, qu'est-ce qu'ils se racontent ?
Il y a des films rock, il y a des événements rock. Le rock a atteint un point où il devient adjectif. Il y a des gens rock qui ne font pas de rock. Dominique Strauss-Kahn ne fait pas de rock, et pourtant il est rock.
J'y connais rien en rock. J'y connais rien en révolte, j'y connais rien en brûlure.
Pourquoi est-ce que toi, ce qui te donne envie de kiffer là, ce qui te donne envie de te mettre la rage là, c'est la musique qu'elle écoutait ta mère dans les années 70.
C'est pas ça du tout, c'est...
Oui, bah moi ma mère elle écoutait ça, d'accord. Moi ma mère elle écoutait ça. Pourquoi aujourd'hui c'est mon père qui me dit quelle musique il faut que j'écoute? Pourquoi c'est mon père qui me paye un abonnement de 10 heures là et qui m'envoie des petits mails? Oh dis donc, tu devrais écouter ça, c'est vachement bien, qu'est-ce que t'en penses? Je veux dire, merde, qu'est-ce qu'on a plus rien à nous? Ils sont où quoi, mes héros? Et moi, tout ce que j'arrive à faire, c'est parler de toi. Toute la journée, je fais que parler de toi. Tu me hantes, mon vieux. Alors, tu sais quoi, Zoom? T'es pas mon père. Mais ce soir, vas-y, dis-moi merde. Vas-y, dis-moi merde.
Je
Voilà, de plus en plus de musique au fur et à mesure que cette dispute avance, pour parler maintenant de ce Club 27, un spectacle donc qui tourne depuis 6 ans maintenant, puisqu'il a été créé, je l'ai dit tout à l'heure, en 2012, en ce moment au TGP à Saint-Denis. Philippe Chevillier.
Alors moi j'ai trouvé que le point de départ était une très bonne idée, mais alors le résultat, pour moi, c'est limite catastrophique. D'abord, bon, je comprends le concept, c'est-à-dire Guillaume Barbeau qui est initié en fait au rock, mais c'est pas son truc le rock, et il se dit quand même ça a nimbé mon enfance et je vais faire quelque chose autour, pourquoi pas, et se dire c'est quand même très difficile d'incarner tous ces personnages qui sont quand même des icônes, donc on va finalement demander à chaque comédien de travail de plateau et de trouver une correspondance avec ce qu'il vit, une vision intime. Le problème, c'est qu'on est entre deux eaux, c'est-à-dire qu'on à la fois ils disent on veut pas les incarner, mais en fait ils les incarnent. Et quand ils les incarnent, moi une image que je trouve assez catastrophique, c'est quand on voit Janis Joplin à l'écran qui chante et la comédienne qui fait Janis Joplin en dessous. On se dit non, là ça va vraiment pas. Je trouve que les textes est assez faible, qu'on tourne autour de cette idée de rock par rock. C'est pas parce qu'on dit rock sur un plateau et qu'on joue de la guitare qu'on a un esprit rock sur le plateau. On a une philippique à un moment donné sur la social-démocratie. Bon, ça me faisait penser un petit peu à Notre innocence, mais c'est quand même, moi je dis moi, c'est quand même mieux écrit. Et simplement, moi je me suis dit au fond le problème de ce spectacle, c'est que ces héros du rock, ce sont pas seulement des icônes, ce sont pas seulement des mythes, ce sont des grands artistes et que la moindre des chansons de ces artistes, que c'est le moindre des morceaux de Jimi Hendrix, de Kurt Cobain, ça vaut une bonne pièce de théâtre et qu'une pièce de théâtre qui est pas réussie comme ça, du coup c'est terrible parce qu'on a envie d'aller plutôt au concert ou on a envie d'écouter les disques des grands artistes dont on parle. Alors j'ai été très méchant, donc je vais dire quand même qu'il y a des moments dans le texte où c'est un petit peu meilleur. Simplement, je me dis tiens, 2012, ça tourne peut-être depuis 6 ans, mais qu'est-ce que ça fait réchauffer, qu'est-ce que ça fait théâtre de plateau d'il y a 6 ans, et vraiment j'étais en colère pendant le spectacle parce que moi j'aime bien le rock'n'roll, quoi, donc voilà, j'étais un peu déçu.
Bon, colère, Philippe Chevillier. Alors, comme on dit toujours, Philippe Chevillier est trop gentil, ce soir il nous montre le contraire. Fabienne Pascaud, Club 27.
Moi, je suis plus indulgente d'abord parce que j'ai vu depuis longtemps les spectacles de Guillaume Barbeau, que je trouve plein de talent, et que c'est un fils de Guillaume Barbeau, comme Marie Raymond était une fille de. C'était deux journalistes de Télérama, Alain Raymond.
Je pense que
Guillaume
je l'ai appris
Barbeau.
Dans cette émission que René Raymond était le père de Marie.
Non, par René.
Alain, pardon.
Alain Raymond qui était obsédé par Bob Dylan, qui nous parlait de Bob Dylan toute la journée, et la fille a fait un spectacle sur Bob Dylan.
Très réussi.
Là, Guillaume Barbeau, son père était un critique rock brillant et il fait un spectacle sur le rock. Donc, c'est difficile d'être jeune aujourd'hui, de se débarrasser des héritages. Et c'est ça aussi, finalement, que raconte un peu le spectacle. Je suis pas sûre que ça raconte le destin de Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain ou Jim Morrison, tous morts à 27 ans. Ce sont des prétextes. Ce qui les intéresse, ce qui intéresse, je pense, Guillaume Barbeau et toute sa bande, que je trouve plus talentueuse que vous ne le dites, Philippe, c'est quels sont les héros d'aujourd'hui, quelles sont les icônes d'aujourd'hui. Ceux-là, c'était les icônes de nos pères, mais c'était dans les années 60-70. Nous, qui est-ce qu'on a pour rêver ? Et je trouve que, et d'ailleurs l'extrait qu'on a passé le dit, cette fille est remarquable dans ce monologue, quand elle dit merde alors, et nous qu'est-ce qu'on fait, on n'a plus rien à choisir, on a ce monde, on est là, on nous l'impose, nous on choisit plus rien, alors que la génération de leurs parents peut-être choisissait encore. Et ça, je trouve ça assez bouleversant, par-delà la mise en scène un peu foutraque mais sympathique, avec rien, parce que c'est quand même pas grand-chose. Il y a une baignoire au milieu de la scène avec des boas dessus, il y a une vilaine table en bois blond, il y a une immense sono avec un musicien assez doué, d'ailleurs je trouve, qui ponctue tout le spectacle. Donc moi c'est plutôt une interrogation sur la jeunesse d'aujourd'hui et je trouve ça assez réussi.
Marie-Josée Sirache, enfin, pour ce tour de table.
C'est un spectacle prépubère. Je pense qu'ils ont 15 ans d'âge mental. Moi, j'arrive plus à comprendre, quoi. Ces jeunes gens de 30 ans qui continuent de se poser des questions comme s'ils avaient 15 ans, qui en sont encore à se demander comment tuer le père. ça me fatigue un petit peu, d'autant que, à part
le monologue... Il y a 50 ans qui se pose encore ces questions-là, Marie-Louise.
Certes, peut-être, ouais, mais
nous fatigue
à ce moment-là,
plus.
Oui, voilà, moi je ne vais même plus les voir. Mais quand j'entends... Le passage qu'on a, qu'on a entendu, c'est le seul passage intéressant du spectacle.
Oui, il est magnifique.
Il est bien choisi.
C'est le seul,
hein.
Admirablement c'est-à-dire choisi. C'est-à-dire que ça aurait été difficile d'entendre autre chose quand même, parce que c'est un peu la creusitude permanente dans les échanges des uns et des autres, où effectivement, là, cette jeune fille explose... mais quand même, on est dans la plainte. Et ça me fatigue. Enfin, au bout d'un moment, il faudrait peut-être aller vers autre chose. Moi, je pense à des gens comme le collectif L'Avantage du Doute, qui avait fait Ce qu'il nous reste de la Révolution, c'est Simon, qui interrogeait l'héritage de 68 et tout ça, qui était extrêmement pertinent et qui était une vraie réflexion politique aujourd'hui, pour demain, et non pas sur « Oh là là, vous nous laissez que des trucs et nous, on n'a rien ». Mais c'est à eux aussi de se faire leur propre
héros. Mais ils
héros.
Font pas de reproches, ils s'interrogent. Oh
bah, ils sont dans la plainte tout le temps.
Mais non, moi j'ai pas pensé que c'était
la plainte. Il est en train
de
vouloir tuer le père par tous les bouts. C'est un petit peu lassant à force. Et puis après, moi je trouve que tout ça tient pas la route. Que c'est d'un classicisme absolu. On sort pas de Hendrix, Joplin et comment il s'appelle, le chanteur des Doors,
Jim Morrison.
C'est Morrison.
Bon, y a quand même Kurt Cobain.
À la fin, on rajoute Amy Winehouse en musique parce qu'effectivement, au moment où il écrit, mais tout ça est cliché, on a déjà vu tellement de choses, et où Kurt Cobain il reste.
Oui.
Et on a vu des choses tellement intéressantes sur ces jeunes gens-là, qui sont morts effectivement à 27 ans, comme si quelque chose les frappait. Il y a Brian Jones, ils rajoutent Brian Jones. Pourquoi on meurt à 27, pourquoi on meurt à 27 ans quand on est rock? C'est quoi être rock ou ne pas être rock? Moi, quand j'entends dire Balkany, c'est rock'n'roll, excusez-moi, mais non, au bout d'un moment, ça va, quoi. Non, Balkany, c'est pas rock'n'roll, c'est du libéralisme, des gens qui détournent de l'argent public.
Bah oui, c'est le rock
mais c'est
d'aujourd'hui.
Pas rock'n'roll. Non, c'est pas ça qui
dénonce.
Qui est être rock.
C'est le libéralisme, c'est
mais
le
c'est
rock d'aujourd'hui.
Mais Balkany est pas rock.
Mais dans le
enfin, Kurt Cobain était rock.
Vous jetez le contexte, c'est assez drôle, cette réplique-là.
Bah, moi, elle me fait moyennement rire.
Moi, elle m'a fait beaucoup rire. C'est du second degré, évidemment. Le rock d'aujourd'hui, qui oui, sait, c'est Balkany, parce que finalement, il brasse tous les interdits. Il est corrompu. Enfin, faut pas que je fasse de la diffamation.
Attention, oui.
Mais bon, on l'accuse de tout, et c'est ça, être rock'n'roll aujourd'hui dans cette société libéraliste pourrie par le fric. C'est des Balkany qui sont nos rockeurs. Moi, je trouve au contraire que c'est une dénonciation un peu affûtée et rigolote.
Non, mais c'est très bien, parce qu'à un moment donné, elle dit ça, mais je suis sûre qu'ils ont tous leur appli Uber pour attraper une voiture n'importe où dans Paris. Et quand j'entends aussi à un moment donné dire...
Vous n'allez pas leur reprocher
non,
quand
non,
même
mais,
d'avoir...
Mais oui, mais, quelle société on veut? Quelle société on veut? Est-ce qu'on veut une ubérisation de la société? Parce que c'est un peu facile de faire le procès permanent
de mai 68
du rock'n'roll. Non, mais on peut prendre des taxis. Voilà. C'est pas la même chose de prendre un Uber et prendre un taxi. C'est pas tout à fait la même façon.
C'est plus cher, le taxi.
Je suis d'accord avec vous.
Je comprends pas, là.
Mais si. Parce que tout d'un coup, plus rien n'a, tout se vaut. Tout se vaut.
Le travail,
la réflexion, la pensée, la politique. Et tout le monde est au même niveau. Donc, Balkany, effectivement, on en fait un rocker. Mais je suis désolée.
C'est une dénonciation.
Mais non, c'est pas une dénonciation. Parce qu'ils sont complètement orphelins de tout. Mais ils sont même pas capables de trouver eux-mêmes, d'inventer des solutions, d'être joyeux dans la vie. C'est ça que moi je les trouve un peu pathétiques, ces jeunes gens.
Alors, la parole était au journal Les Échos. Philippe Chevillet.
Attention,
je ne rentrerai même pas dans ce débat. Parce que je trouve justement que, encore une fois, les rebelles, ce sont les rockers. Et d'ailleurs, le rock n'est pas mort. Il y a des. Et si ce n'est pas du rock,
avec
c'est
Johnny
du rap.
Avec Johnny et Gilin, quand même, on est mal en France.
Non, mais on a plein de nouveaux talents qui arrivent. Et donc, la musique, ça, je veux dire, si on veut avoir des nouvelles idoles, on peut en trouver. Ce que je trouve, justement, c'est que face à ces gens qui sont des artistes, et alors que les jeunes écoutent toujours, quoi qu'on en dise, parce qu'on a toujours des références. Quand j'étais gamin, j'écoutais Chuck Berry et les Rolling Stones en même temps, donc ça existe toujours. On écoute toujours ces gens parce que ce sont des artistes et parce que c'est beau ce qu'ils font. Et moi, ce que je reproche, et je comprends bien ce qu'il a voulu faire, c'est voilà que les gens sur le plateau, les acteurs se racontent à travers ça, racontent autre chose. Mais ce qu'ils racontent, je trouve pas ça intéressant du tout, de bout en bout. Et même le passage justement à la Philippique, à un moment donné, qui se veut contre les sociaux-démocrates, droite et les rockers. Bon, c'est, je trouve ça très cliché et très convenu. Et je trouve en plus que, au fond, on n'est plus dans les enfants de mai 68, on est dans les petits-enfants maintenant. Donc, ce qui est intéressant, c'est les petits-enfants, ce qu'ils vont faire. Et quand je vois le spectacle, je trouve qu'on a l'impression de voir ce que disait Marie-Josée, c'est-à-dire qu'parfois, ils ont l'air d'être un peu genoux dans leur tête, mais ça fait déjà un peu vieux. Ils sont un peu vieux pour parler de changer le monde. C'est pas eux qui vont changer le monde, c'est la génération d'après. Voilà.
C'est un peu l'effet McCain, ça.
Vous trouvez que très McCain ce soir?
Non, mais McCain pense qu'il est encore jeune et il pense qu'il va changer le monde, mais il faut passer le relais.
Ceux-là, ils ont 30 ans quand même.
Non, mais je pense
au spectacle de Zontag qu'on a vu, on a parlé il y a 15 jours. Pour le coup, là, il y avait une pensée. C'était riche dans la réflexion, dans la dérision, dans l'autodérision. Voilà.
Il n'aurait peut-être pas dû le reprendre, Guillaume Barbeau, parce que le spectacle, il tourne depuis 6 ans, comme vous le disiez, créé dans le Off Avignon. Il n'avait pas 23 ou 24 ans à l'époque. Mais vous savez, c'est là aussi qu'on voit, je ne vais pas vous faire de peine.
Le TGP vous demande de venir jouer 15 jours, vous venez.
Mais oui, encore une fois, je ne veux pas vous faire de peine, mais il y avait plein de jeunes, moi, dans la salle, quand j'y suis allée, et ils s'accrochaient. Donc, ils écoutaient, ils étaient intéressés. Et ce n'est pas un hasard aussi si le spectacle tourne. Ça dit des choses aux jeunes d'aujourd'hui qu'on ne sait plus entendre.
Je crois que c'est important de dire ça. Le spectacle, c'est vrai que l'écriture de plateau, avec ses faiblesses, et c'est vrai qu'on peut quand même se poser la question de tout le théâtre de plateau, de se dire, je pense que c'est bien d'avoir quand même des textes qui sont plus travaillés, même si on les a travaillés en plateau. Et d'autre part, le fait qu'un spectacle qui justement repose un peu sur quand même de l'impro qu'on a travaillé, 6 ans après, ça fait quand même, ça fait réchauffer. Et c'est ce que j'ai senti dès le départ, c'est cette première impression que j'ai eue.
L'impro de Christiane Jataï, elle n'est pas mieux, mon cher Philippe.
Mais pour le coup,
l'écriture de
plateau de Christiane Jataï,
mais pourquoi pas en parler, effectivement. On peut s'interroger sur toutes les écritures de plateau, mais il y en a qui sont mieux que d'autres.
Ouais. Pourquoi enlève-t-elle sa petite culotte?
Elle enlève sa petite culotte.
On parle pas de Christiane Jataï.
C'est très mignon. Moi, j'ai trouvé très drôle, et je suis aussi féministe que vous, j'ai trouvé très drôle qu'elle ait eu le courage de se teindre les poils du sexe.
Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais
j'ai trouvé que c'était un geste
rock'n'roll.
Mais qui a fait ça? C'est Madonna qui a fait ça.
Je ne le savais même pas.
Mais voilà, il y a parfois quelques références, mais il ne les exploite même pas. C'est là où il passe un peu à côté.
Mais le geste rebelle que vous aimiez tant chez Shakespeare, il est là.
Ah bah non, il est plus rebelle chez Shakespeare. Je suis désolée.
Bon, moi j'attendais de voir comment ça se passait pour donner mon sentiment. En tout cas, je vois que depuis ce spectacle, Guillaume Barbeau, il en a fait au moins 4 ou 5 autres. Il y a l'an prochain une adaptation d'un roman d'Ali Zamir. Donc,
ils sont peut-être formidables.
Il continue à travailler. On parlait là de Club 27. Bon, c'est vrai. Il n'y a pas quand même beaucoup de très bons moments dans ce spectacle. Je trouve que c'est dommage parce que sur un sujet pareil, il y avait effectivement vraiment de quoi faire mieux. On en convient, Fabienne Pascaud, même si on a envie de défendre un petit peu ce spectacle. Il y a une énergie, il y a quand même... Moi, j'étais sensible à ce grand moment dont on a entendu un extrait également. Et je serais tout à fait intéressé de voir d'autres spectacles de Guillaume Barbeau. J'avais prévu qu'on aurait peut-être un peu de temps pour parler d'Avignon. Je rappelle quand même que Club 27 se joue jusqu'au 15 avril au théâtre Gérard-Philippe à Saint-Denis. On a appris à SN Toutenoy d'aller nous faire les photocopies du programme d'Avignon. Je me suis dit qu'on aurait un peu de temps. Quand même, il a été annoncé la semaine dernière, me semble-t-il. Enfin, j'ai plus trop de monde de la notion des dates. Vous avez envie de voir quoi en priorité dans ce spectacle, ce programme qui ira du 6 au 24 juillet à Avignon? Alors, c'est Fabienne Pascaud, tiens, qui commence.
Mais moi, j'adore la tragédie latine. Donc, évidemment, le Tieste monté par de Sénèque, monté par Thomas Joly dans la cour d'honneur du Palais des Papes, suscite mon intense curiosité. Le Gosselin, d'après Dan Delis, il est doué pour ça, Gosselin, pour adapter les grandes œuvres romanesques. Donc voilà, je crois que et puis à Iphigénie, moi j'aime beaucoup Chloé Dabert qui nous avait fait un magnifique Lagarce au Vieux Colombier, donc enfin pour moi magnifique. Donc là, elle s'attaque à Iphigénie de Racine.
Et à propos de Lagarce, c'est donc Christophe Roque lui montrera, d'après Jean-Luc Lagarce, Le Pays Lointain. Ce sera en toute fin de festival, donc d'après Jean-Luc Lagarce.
Voilà, puis
je pense que la programmation danse
et danse pour le coup.
Et danse oui. Et riche avec plein de choses qui
de Raymond Hogg à Rocio Molinar, enfin beaucoup de Fiaménar qui est là également. Marie-Jo Desserrat, vous avez repéré quoi vous de votre côté?
Le flamenco,
voilà.
Évidemment.
Gosselin ou pas?
Pardon.
Pourreau ou pas?
Gosselin, Korsunvas aussi. Puis tout me donne envie. Je trouve qu'Olivier Py sait faire. Sa conférence de presse est toujours aussi agréable. Il sait nous parler des spectacles.
Peut-être qu'il devrait monter une conférence de presse tous les jours au festival.
À Avignon.
Hein, ce serait un de ses spectacles. Mais je suis content que le focus moyen-oriental soit en fait prolongé, qu'on retrouve Amir Reza Costéani, qu'on retrouve Amène Al-Attar, Ali Charour aussi, qui reviennent, eux, et qui nous donnent des nouvelles d'Irak, d'Égypte, de Syrie, enfin de ces pays-là. Et enfin, Philippe Chevillier, vous attendez?
Moi, très vite, évidemment, Thieste, ça m'intéresse, un cours d'honneur. De toute façon,
Thomas Joly vous intéresse.
Thomas Joly, voilà, m'intéresse. Gosselin, bien évidemment. Et j'ai aussi, on aura notre Ivo Van Hove aussi, puisqu'on avait dit Dingen, j'aurais pas dû le dire. Hein. Les choses qui passent, d'après Louis Couperus, donc qui est apparemment un Proust néerlandais. Mmh. Le teaser qu'on nous a montré du spectacle, les extraits que j'ai vus, j'ai regardé sur Internet, ça a quand même l'air d'être assez fort. Et puis sinon, c'est vrai que ça m'intéresse aussi de voir ce que fait ces tragédies modernes d'Olivier Py après. Moi, je n'avais pas été fanat des Parisiens, donc je veux voir ce qu'il fait sur une petite forme cette fois et dans des endroits différents. Et puis, il y a plein de choses.
Il y a Emmanuel Gatt aussi, qui est un danseur, un chorégraphe formidable. Mais moi, j'ai bien aimé l'affiche, là, de Claire Tabouret.
Donc, ce sera l'expo.
Les enfants nous regardent.
C'est assez beau.
C'est troublant.
C'est que les enfants nous regardent, ça nous ramène au spectacle de Philippe Barbeau. Là, la jeunesse nous regarde.
Soyons indignes. Est-ce qu'il y aura des enfants sur scène?
Et le retour d'Anne-Cécile Vandalem avec Arctique. Anne-Cécile Vandalem, on va en reparler bientôt puisqu'elle sera à l'affiche de l'Odéon avec un spectacle qu'elle avait précédemment présenté à Avignon. Et on conclut du coup en retard, évidemment, avec le jeu de la dispute Camille André. Si on passait à la question de ce soir directement, ça va être mieux, parce qu'en ce soir, on va faire gagner des invitations pour l'exposition Hugo Pratt, Ligne d'Horizon, jusqu'au 24 mars 2019, au Musée des Confluences à Lyon. Quelle est la question, Camille?
Hugo Pratt, le célèbre dessinateur de Corto Maltese, a également été acteur. Dans quel film peut-on le voir?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, envoyées à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver bien sûr sur franceculture.fr à la page de la dispute. Préparez vos commentaires pour demain à 19h, une dispute consacrée à la musique avec Lucille Como, Guillaume Thion et Mathieu Conquet. Nous parlerons du Coq d'or de Rimsky-Korsakov. C'est en DVD Blu-ray chez Bel Air Classique, mise en scène Laurent Pelly. Le château de Barbe Bleue, la voix humaine, Bartok, Poulenc, c'est en ce moment à l'affiche de l'Opéra de Paris, mais aussi en DVD. Et là, c'est Christophe Varley qui signe la mise en scène, et puis un disque de Célimène Daudet qui interprète des préludes pour piano de Messiaen et de Debussy.